dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Tous lui rendaient témoignage et ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Ils se demandaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton pays. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. » En toute vérité, je vous le déclare, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien vers une veuve étrangère de la ville de Sarepta dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Bonjour, chers frères et sœurs. Votre réponse me fait, ou du moins me rappelle, ce qu'a vécu un aîné qui était parmi vous, pas ici à Saint-Marc, mais ici en France. Il nous l'a dit ce mercredi au cours d'une conférence qu'il est venu nous donner. Aujourd'hui, il est secrétaire de la conférence épiscopale de Congo, RDC, bien sûr, Congo-Kinshasa. Il disait, quand il était arrivé en France, la première année, il aimait bien saluer, comme je le fais, soit au début de la messe ou au début de l'homélie. Mais les chrétiens ne répondaient pas. Alors je me suis dit, je ne suis pas le seul alors. Et ceux qui étaient dans la salle, nous étions tous, pratiquement tous des Africains, ils ont dit, mais c'est pareil, quand on salue, ils ne répondent pas. Bonjour, chers frères et sœurs. Ah, ça change. Merci à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous poursuivons notre lecture de l'évangile de Luc, qui nous présente aujourd'hui le refus ou le rejet de la parole faite chair par ceux-là même qui ont eu la primeur de voir grandir le fils de Marie et Joseph. Suite à la proclamation du message, du passage du livre d'Isaïe, le Christ a affirmé « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre ». Cette parole a suscité plusieurs sentiments dans le cœur des auditeurs, des co-religionnaires du Christ présents dans la synagogue. Saint Luc nous révèle qu'ils étaient d'abord dans l'admiration, puis dans l'étonnement pour finir dans une attitude de rejet total, de haine vis-à-vis de celui qui s'adressait à eux. Leur admiration vient du fait qu'ils ont entendu beaucoup de bien au sujet de celui-là qui est l'un des leurs. Ils sont fiers de lui, fiers de l'accueillir, heureux de son retour au bercail. En effet, au regard des miracles qui s'accomplissent de ses mains, ils sont partis pour croire qu'il a sur lui l'Esprit de Dieu. Mais en même temps, cette admiration, qui n'est pas la foi bien sûr, malgré qu'elle peut y conduire, fait place à un étonnement qu'ils expriment en murmurant entre eux. « N'est-ce pas là le fils de Joseph le charpentier ? N'est-ce pas ce Jésus que nous avons vu courir jouer dans la poussière ici avec nous. Cet épisode me rappelle la parole ou la parabole du grain, du bon grain et de l'ivraie dont nous parle Matthieu dans son chapitre 13e. En effet, dans ce chapitre, dans cette parabole, le Seigneur nous disait que le propriétaire a semé dans son champ du bon grain, mais l'ennemi est arrivé nuitamment et il a semé de l'ivraie et il est parti. Les auditeurs du Christ, ceux-là qui sont présents devant lui aujourd'hui, ont bien sûr reçu la parole de la part de Dieu, de la part des prophètes. Ils ont cette parole en eux. Mais en ce moment, à cause de la grandeur, on pourrait dire, actuelle du Christ, à cause de ce qu'ils ont vu ou de leur proximité avec lui avant, ils se sont fermés à un moment donné. On a envie de dire que le diable est venu jeter le trouble en leur sein. Cet étonnement des auditeurs du Christ n'est pas l'étonnement de celui qui découvre et accueille avec ravissement une sagesse supérieure. C'est l'étonnement de celui qui confronte à ses connaissances acquises une réalité nouvelle et qui dit par la suite « Cela n'est pas conforme à mes vues. Je ne crois pas que cela puisse être vrai. » Et à partir de ce moment, il devient sceptique, il se ferme et rejette tout. Ces Nazaréens ont cette pensée également qu'aura Nathanaël. Ce dernier, lorsque Philippe avait rencontré le Christ, est allé le trouver pour lui dire « Nathanaël, nous avons trouvé le Messie dont parlent les prophètes. C'est Jésus, fils de Joseph, le charpentier. » Nous nous souvenons, Nathanaël a répliqué « De Nazareth, que peut-il bien sortir de bon ?» Pour dissiper ce doute, étonnement, ils s'attendent à des miracles de la part du Christ, ce que ce dernier refuse, comme il refusera de le faire sur la croix, où on le lui disait « Si tu es le Fils de Dieu, descends et nous croirons. » Car pour le Christ, les miracles, devant des témoins, oculaires comme auriculaires, qui refusent de croire, seront sans fruit. En leur rappelant les épisodes d'Élie et d'Élisée, il leur signifie que leur refus de croire sur la base de ce qu'ils ont entendu l'amène à diriger les bienfaits de la rédemption vers d'autres personnes, d'autres territoires, vers les païens. Prophétie déjà adressée à Jérémie. « Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré, j'ai fait de toi un prophète pour les nations. » Entendons par là, pour les païens. Cette attitude de rejet des Nazaréens est souvent la nôtre aujourd'hui. Vivant dans une société où les expériences et les découvertes scientifiques et où l'empirisme, dans un monde où la violence, la souffrance, l'injustice ont tendance à prendre le pas sur la foi, la pleine confiance et nous arrivent de réclamer du Seigneur un signe sensible et visible. Une intervention parfois cataclysmique pour continuer de croire. Je voudrais ici vous rappeler ou du moins vous dire cette petite histoire que nous avons vécue avant de continuer. C'est l'histoire d'un vieux d'une ethnie de chez moi. On les appelle les Bété, B-H-E-T-E. Alors ce peuple, ils sont réputés un peu comme les Chinois ou les Thaïlandais, ils aiment beaucoup le riz. Et ce monsieur, on lui présente une femme et un sac de riz. On lui demande de choisir. En temps normal, il va choisir le riz. Mais ce monsieur, il dit, si je choisis le riz, qui va le préparer? Alors, je préfère choisir la femme. Avec la femme, je suis sûr que je peux trouver du riz quelque part, elle va préparer. En ce moment, j'aurai les deux. Frères et sœurs, nous oublions que pour bénéficier ou avoir continuellement des miracles dans notre vie, il est impératif pour nous d'accueillir le Verbe, la parole, pour qu'elle se fasse chair et demeurer parmi nous. Car cette parole, qui est le Christ, peut nous apporter, et il va nous apporter, car c'est à lui qu'appartient tous les miracles, il peut les nous apporter. Alors, accueillons-le et nous aurons les miracles, nous aurons les deux. La venue du Fils de Dieu dans notre monde, frères et sœurs, n'avait pas pour finalité première de faire un cursus de miracles, même si cela devait passer par des guérisons et délivrances, mais de montrer et d'exprimer le visage d'amour miséricordieux de ce Père plein d'amour pour l'homme. Et cet amour, c'est ce qu'il a permis à l'apôtre des nations de nous l'écrire pour que nous en vivions entre nous comme réponse à l'amour divin. En effet, saint Paul, après avoir fait une longue comparaison avec les membres du corps humain, nous fait comprendre qu'en dehors de l'amour, vécu dans l'imitation de celui de la divine Trinité, il ne peut rien avoir de beau et de grand devant le Seigneur. Le pape François nous rappelle et nous dit que notre Église, catholique bien sûr et chrétienne, ne grandira pas dans ce monde par prosélytisme, mais bien par l'amour vécu et partagé en tous. Paul semble dire aux chrétiens de Corinthe, éblouis par tout ce qui est extraordinaire et merveilleux, que rien n'égale l'amour véritable. Le pape nous dit en même temps et nous rappelle et nous fait comprendre que la technologie ou les sciences d'aujourd'hui ne remplaceront jamais l'amour. Et c'est cet amour, la plus grande des trois vertus théologales, que sont la foi, l'espérance, la charité ou l'amour, qu'il nous faut continuellement désirer, rechercher, acquérir et partager avec tous. Car c'est elle qui nous fera entrer dans la maison du Père éternel. Prions, frères et sœurs, et demandons au Seigneur qu'en cette année dédiée à la miséricorde, qu'il nous donne, ou du moins demandons-lui, de faire revivre en nous ces différentes vertus pour qu'en les exprimant, nous puissions faire connaître au monde son doux visage d'amour pour le genre humain, car nous le savons, c'est pour cela qu'il nous a choisis, consacrés par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Faisons notre cette prière, ou du moins cette parole de l'Évangile. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi.